RCF.
. 18h10, vous écoutez RCF, le 18-19 en région, comme tous les soirs de la semaine. Et c'est avec Alexis Claudret, c'est pas évident à dire ça.
Bonsoir à toutes et à tous, vous inquiétez pas, Fabrice, voilà, moi si je bafouille comme ça, on se passe le message, tout va bien, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. On va dévoiler le programme de ce magazine régional sur RCF ce soir. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-François Boulanger pour un nouveau numéro de Mémoire chrétienne, fini les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va prendre les chemins de Saint-Martin dans quelques instants. Vous en avez pris l'habitude, un maire qui nous parle, ce soir nous irons du côté de Balieu-les-Fismes dans la Marne avec Lucie Paulet. L'édile du village. Aux alentours de 18h30, l'information régionale. Et puis on parlera musique à la fois dans le journal avec notamment l'association Hors Saison Musicale et Bougeons à Avançon Près de Rethel, mais aussi en deuxième partie d'émission avec le Festival Baroque 2023 de Cézanne. On sera avec Patrick Faustier ce soir, vice-président d'Ardenne Métropole en charge des questions économiques, élu également de la ville de Charleville-Mézières. Et puis enfin, on présentera une exposition qui a lieu les 14 et 15 octobre du côté d'Épernay. Bruno Melin, président de l'association philatélique sparnassienne, sera avec nous pour évoquer ces sujets. Sachez que je ne suis pas seul en studio, elle est à mes côtés, notre stagiaire à la rédaction, plus précisément sur le pôle communication. On est en train de nous préparer des nouveaux visuels pour les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Vous les découvrirez dans les prochains jours si vous êtes nos followers, nos suiveurs. Mélissa Tavares est avec nous ce soir. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Tout va toujours bien, le stage se passe bien pour vous?
Toujours bien.
Bon, ça va, vous n'êtes pas encore traumatisé, on ne vous donne pas trop de travail malgré tout?
Non, ça va.
Bon, vous voyez, on est sage à RCF, on est gentil, on est responsable. Lui aussi, il est sage, il est gentil, il est responsable, il nous prépare ses chroniques à merveille. C'est Jean-François Boulanger que l'on retrouve par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Les chemins de Saint-Martin. Nous avons eu l'occasion d'évoquer les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans de précédentes émissions, mais ce type de pratique pèlerine ou de randonnée fait des émules. D'autres chemins se développent également. Ils s'inscrivent dans la mémoire d'un saint homme qui a marqué l'histoire de l'Église en Europe, Jean-François Boulanger.
Absolument. Et effectivement, il existe à travers la France de nombreuses associations à vocation culturelle et pas simplement cultuelle, qui se fixe comme but d'accueillir les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques, de participer à l'entretien des chemins en collaboration avec les autres associations jacquaires. Et parmi celles-ci, il y a l'association 53 Compostelle et autres chemins, et comme le nom de cette association l'indique, elle se fixe comme but de promouvoir d'autres chemins, je cite, « faisant écho aux chemins de Compostelle ». Et parmi eux, il y a le ou les chemins de Saint-Martin.
Tout de suite, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que le chemin de Saint-Martin?
Alors, le site de l'association le présente en ces termes. Je cite, « Il relie l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, de la Hongrie à Tours, en passant par la Slovénie, l'Italie et la France, sur 2500 km. » Autrement dit, ce chemin est le reflet d'une vision européenne très ambitieuse.
Effectivement, un tracé qui surprend. Là encore, pourquoi Jean-François Boulanger?
Alors, parce que Saint-Martin est né en Hongrie, dans une ville qui s'appelle Zombatelli, je ne garantis pas la prononciation, et qu'il est mort donc à Caen de Saint-Martin en 397, près de l'abbaye de Fontevraud, et que son tombeau est déposé à Tours dans la crypte de la basilique qui porte son nom. De ce fait, ce qu'on va appeler la Via Sancti Martini, la chemin de Saint-Martin, donc développe plusieurs itinéraires qui s'organisent autour de trois grands chemins que l'on nous présente comme empruntés par Saint-Martin pendant sa vie. Et certains de ces chemins sont prolongés pour tenir compte des lieux martiniens, autrement dit liés à la vie de Saint-Martin, particulièrement importants, par exemple Utrecht avec sa capitale Saint-Martin. Et tous sont centrés sur Tours, lieu du tombeau de Saint-Martin.
Pour une fois, Jean-François Boulanger, on va y aller par quatre chemins, j'ai envie de dire.
Absolument, on va y aller par quatre chemins.
Quels sont-ils ?
Je ne suis pas sûr que les pèlerins puissent faire les quatre chemins rapidement, ceci étant dit. Pour commencer, n'y allez pas par quatre chemins. Alors, il y a d'abord le chemin de Zombatelli, donc c'est là que Saint-Martin est né. Donc, et on nous dit que le saint a parcouru ce chemin pour aller voir ses parents dans sa ville natale, actuellement en Hongrie. Il traverse donc la France jusqu'au col du Petit Saint-Bernard, puis le nord de l'Italie, la Slovénie, donc au nord de l'ancienne Yougoslavie, et l'ouest de la Hongrie. Il y a aussi le chemin de Trèves, C'est le chemin que Saint Martin, devenu évêque de Tours, a parcouru pour aller plusieurs fois voir l'empereur qui se trouvait à l'époque à Trèves, l'empereur romain, aujourd'hui en Allemagne. Il passe par Chartres, Paris, Reims et le Luxembourg. Il y a également le chemin d'Utrecht, c'est le chemin qui permet de relier Tours à la ville d'Amiens, lieu de la célèbre scène du partage du manteau. Jusqu'à Paris, il emprunte le même parcours que Trèves, que celui de Trèves, et après Amiens, il se poursuit vers la Belgique et les Pays-Bas pour relier plusieurs grandes villes au patrimoine martinien important, Utrecht en particulier. Et enfin, il y a le chemin de Saragosse, c'est un chemin qui part vers Bordeaux et Saragosse, où Saint-Martin serait allé pour des réunions d'évêques. En partant de Tours, il prend le chemin de l'évêque jusqu'à Ligugé, puis il passe par Cognac, Bordeaux et Pau, avant de traverser les Pyrénées au col de la pierre Saint-Martin.
Si je peux me permettre, Jean-François Boulanger, quatre chemins, c'est quand même beaucoup.
Ah oui, mais c'est pas tout, parce que l'association a imaginé aussi sur le plan local ce qu'elle appelle la grande boucle de 500 km. En fait, cette grande boucle qui se trouve en Touraine et dans le Poitou, c'est un ensemble de trois chemins qui font au total 500 km et qui relient donc des lieux qu'on n'a pas appelé Terre de Saint-Martin. Et donc, vous avez d'abord le chemin de l'évêque de Tours, c'est le chemin que Saint-Martin a parcouru pour rejoindre Tours, où il a appelé par les Tourangeaux à devenir leur évêque en 371. Donc, ce chemin part de Ligugé, abbaye qu'il a fondée donc en 361. Vous avez aussi le chemin de l'été de la Saint-Martin. Alors, c'est le chemin que Saint-Martin a fait la fin de sa vie pour aller à Candès ou à Caen de Saint-Martin, une paroisse qu'il avait fondée à la limite de son diocèse. Et là, il va mourir le 8 novembre 397. Et les Tourangeaux ramènent son corps à Tours par la Loire. Et la légende raconte qu'au passage de son corps, les arbres fleurissaient sur les berges. Et c'est de là que vient l'expression de l'été de Saint-Martin. Et enfin, le chemin de Ligugé qui relie Caen de Saint-Martin à Ligugé, qui passe notamment par Fontevraud, l'abbaye, Loudun et Poitiers.
Mais est-ce que tous ces chemins bénéficient d'une reconnaissance officielle?
Alors, la Via Sancti Martini a été labellisée itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe. Et son développement, le développement de cette Via Sancti Martini est développé en France par le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours, fondé en 2005. Ce centre culturel vient de changer de nom lors de son assemblée générale du 30 septembre 2022. Et il est devenu Via Sancti Martini France, qui a pour but donc de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel lié au personnage de Saint-Martin de Tours en France. Et donc, ça se traduit par le fait que, par exemple, on a mis en place un système de bornes, comme pour Saint-Jacques, un système de carnet du marcheur pèlerin, comme pour Saint-Jacques, là encore, avec des tampons, hein, on commence à voir apparaître des tampons de ce type. Et donc c'est ainsi que aujourd'hui, y a des pèlerins qui empruntent donc ce chemin, en tout cas sur une petite partie. Hein. Je vais en citer deux dont le périple est mentionné par le bulletin de l'association. Il s'appelle Dominique et Hervé, et ils ont marché de Nantes à Tours. Je vais les citer très rapidement, si vous me permettez.
On vous le permet.
Si j'ai le temps. Hein. Si nous sommes partis le 6 juillet 2022 du passage Sainte-Croix à Nantes, nous avons eu la chance d'avoir du très très beau temps. La partie Loire-Atlantique est très bien balisée, les fameuses bornes. Nous avons apprécié la proximité avec la Loire. Au début, nous faisions les petits détours dans des églises dédiées à Saint-Martin, mais nous nous sommes aperçus que cela nous retardait beaucoup. Alors nous avons limité nos visites, préférant aller d'une étape à l'autre le plus directement possible. Nous avons eu la messe du dimanche soir à Béhuard, une très belle étape. Et puis, la partie Maine-et-Loire s'est faite tant bien que mal parce que le balisage n'est pas fait partout. Mais il y a une application qui permet de retrouver son chemin. Nous avons marché pendant 14 jours, endurant quelques difficultés à cause des sacs à dos certainement trop lourds, des ampoules aux pieds et de la longueur des étapes. Du fait des hébergements, nous avons parcouru soit des étapes trop longues ou parfois trop courtes. Des distances qui se prolongeaient d'autant plus que nos logements étaient rarement situés le long du chemin. À Tours, nous sommes restés deux nuits chez des sœurs bénédictines, où nous avons pu nous reposer physiquement et vivre quelques offices à présent. Merci pour tous les renseignements que vous nous aviez donnés avant de partir à propos des visites, du chemin et de la vie de Saint-Martin.
Jean-François Boulanger, pour reprendre quelques éléments, vous avez parlé d'une association culturelle. Le récit que vous venez de nous lire a une dimension religieuse incontestable. Quelle est la position de l'Église face à ce pèlerinage qui fait mémoire de Saint-Martin ?
Eh bien, il est reconnu par l'Église. Par exemple, le diocèse de Poitiers le reprend à son compte, puisque les services des pèlerinages des diocèses de Poitiers et de Tours ont proposé cette année à toutes les personnes de leur diocèse un pèlerinage de 13 jours allant du 22 juin au 2 juillet sur la Via Sancti Martini pour un ou plusieurs jours, avec les étapes suivantes, alors on le prend quand on veut, avec donc les étapes qui donc suivent les différents éléments, hein, les différentes étapes. Et donc, vous voyez, ça existe, hein, ça se met en place. Et si vous me permettez de conclure, on dira que, ben, ma foi, si vous avez parcouru tous les chemins de Saint-Jacques, ceux de Saint-Martin vous attendent. Ils sont moins fréquentés que les premiers, mais actuellement, ils sont sans doute plus proches de la mémoire du saint qu'ils honorent que, disons, les chemins de Saint-Jacques, tels que nous les avons évoqués parfois dans les émissions précédentes.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé aujourd'hui sur les chemins de Saint-Martin. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Un jour, un maire qui vous parle. Lucie Paulet de Balieu-les-Fimes est avec Jean-Pierre Benoît à 18h21 ce soir.
Bonjour Madame la maire, bonjour Lucie Paulet.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de mieux connaître votre commune et de mieux vous connaître aussi puisque vous êtes la maire de Balieu-les-Fimes. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu générale votre commune, sa situation géographique, le nombre d'habitants de Balieu-les-Fimes ?
Oui, donc la commune de Balieu-les-Fimes est située à l'ouest du Grand Reims, en limite du département de l'Aisne. La commune est voisine des communes de Glennes, Romain, Courlandon et Fimes. Les habitants de Balieu-les-Fimes se nomment les Bailleutins et les Bailleutines et est composé d'environ 350 habitants.
Ces habitants, on les reverra tout à l'heure, mais quel type ce sont des gens en retraite? Il y a des jeunes qui s'installent. Avec le Covid, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien aller dans des belles communes pas trop trop loin de Reims, à la campagne. Quels sont ces habitants de Balieu-les-Fimes aujourd'hui, Madame Paulet?
Alors effectivement, la population se renouvelle avec la création d'un lotissement en 2012, donc beaucoup de jeunes couples avec enfants, mais on a également nos anciens qu'on n'oublie pas. Et...
Il y a des retraités, il y a des personnes plus âgées qui sont aussi à Balieu-les-Fimes, hein, comme dans
voilà.
toutes les communes. Et vous, vous êtes maire depuis combien de temps? C'est assez récent finalement.
Depuis 2020, oui.
Depuis 2020. Et vous avez toujours été intéressé par la vie associative? Vous étiez peut-être avant conseillère municipale. Comment c'est arrivé? C'était peut-être, comme on dit aujourd'hui, un peu dans votre ADN?
Effectivement, j'ai été élue pour la première fois en 2014 en tant que conseillère municipale et en 2016 en tant qu'adjointe au maire jusqu'en 2020. Et ensuite, je me suis présentée en tant que maire en 2020.
Alors, c'est vrai que, bon, votre commune, on vient de la caractériser très, très rapidement, les habitants. On dit aussi que le maire, il est souvent, très, très souvent sollicité, mais que c'est, tous les élus disent, c'est l'une des missions les plus proches, celle de maire, par rapport à ceux qui sont députés ou conseillers départemental ou régional. Le maire, on le connaît, le maire. On vous connaît dans Balieu-les-Fimes. Hein.
Alors effectivement, les anciens me connaissent puisque j'ai grandi à Bayeux. Après, les nouveaux, ils ne viennent pas forcément se présenter en mairie. Donc voilà, ils peuvent me croiser sans pour autant savoir qui je suis. Mais enfin, en général, je vais me présenter à eux voilà, pour faire connaissance. Et on fait le Noël des enfants dans l'église. Donc pour les nouveaux qui ont des enfants, au moins ça permet de présenter tout le conseil municipal.
C'est aussi un moyen de faire connaissance. Les enfants, c'est un bon moyen aussi hein, de faire
voilà,
connaissance.
Voilà, oui.
Donc, je vous ai interrompu, il y a Noël, il y a des activités qui permettent de temps en temps, quand même dans l'année, de rassembler les habitants de Balieu-les-Fimes.
Alors, effectivement, on n'a plus de comité des fêtes actuellement et le volontariat disparaît malheureusement. Les gens n'ont plus le temps puisqu'ils travaillent, ils ont leur vie de famille.
Bien sûr.
Ça. Mais nous, on organise quand même les cérémonies donc du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. On fait Halloween et donc le Noël des enfants et des anciens. Voilà.
Alors, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères que nous avons tous les jours qui nous disent, alors parfois il y a des esprits chagrins, hein, qui sont toujours, bon, c'est vrai, c'est partout pareil. Et puis il y en a d'autres qui sont contents. Alors, il faut quand même que vous fassiez preuve de diplomatie.
Oui, alors les problèmes de voisinage, voilà, comme on dit, c'est pas vraiment à la mairie de régler ces litiges. Mais après, on est là, entre guillemets, pour arrondir les angles et faire en sorte que ça se passe pour le mieux et aussi bien l'un comme l'autre puissent trouver un accord et vivre ensemble, on va dire.
Alors, est-ce que vous avez, à Balieu des Films, quelques projets en cours, à court terme, à moyen terme ou même peut-être à plus long terme?
Alors le projet le plus important sur la commune, c'est les travaux de voirie et notamment la rue principale. Donc on va commencer par la rue qui borde la mairie en fait, hein, qui est quand même assez grande, la rue de Lorraine, mais qui est scindée en fait en deux parties, une partie route départementale et une partie communale. Donc en 2024, enfin 23-24, ça va être le Grand Reims qui va œuvrer sur la partie communale. Et donc ensuite, nous, pour 2025-26, on va faire la partie départementale, avec les aides financières du département, du Grand Reims, de la région et de l'État.
Alors c'est vrai qu'on dit toujours le maire, on le connaît et tout ça, mais il est quand même encore le patron ou la patronne dans sa commune, le maire ou la maire.
Ah bon, on essaie de l'être, hein, on essaie de faire respecter la réglementation en vigueur, ce n'est pas toujours simple. Les gens en plus ont atteint un niveau d'exigence assez élevé là. Hein, dernièrement, je le constate avec certaines personnes qui arrivent à la campagne et qui pensent que bah, voilà, ils veulent le même confort qu'en ville, mais voilà, la campagne et la ville, ce n'est pas du tout la même chose. On a des avantages à la campagne qu'on n'a pas en ville et inversement, hein, les inconvénients, on en a aussi à la campagne.
Avec les communautés de communes, avec le Grand Reims et tout ça, vous êtes quand même encore respecté, le maire, encore le patron chez elle, enfin dans la commune.
Alors voilà, j'essaie voilà, de me montrer auprès du Grand Reims, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que le Grand Reims, c'est quand même une communauté de communes qui regroupe 143 communes avec des populations différentes. Et bon, on essaie de par le transfert de compétences de faire en sorte que voilà, on ait des travaux qui soient effectués par le Grand Reims. Et voilà, on y arrive, il faut un peu de temps parce qu'on n'est pas tout seul, et il faut en laisser aussi aux autres. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien avec le Grand Reims.
Alors il faut dire que évidemment c'est pas toujours facile lorsque vous êtes une mère de famille de conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle et le fait d'être mère. C'est pas toujours facile, il faut vous organiser quoi.
Voilà, beaucoup d'organisation, savoir s'adapter aussi. Des fois on fait des choix suivant les priorités.
Vous êtes à combien de kilomètres de Reims finalement à Balieu-les-Films?
25 km à peu près.
Oui, il y a quand même une petite distance. Si vous allez à Reims, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour comme ça plusieurs fois. Hein. Mais vous avez vu arriver d'une nouvelle population, par exemple avec le Covid, il y a des gens qui font construire, non? Il y a pas. Est-ce que ça arrive, ça?
Alors nous, en fait, sur Balieu-les-Films, il nous reste très peu de terrain à bâtir. Hein, donc voilà, ça va être plus de la vente déjà de bâti. Et effectivement, des gens de, voilà, comme je dis, de la ville qui arrivent à la campagne et pour lesquels bah, il faut, voilà, on leur apprenne en fait la façon de vivre à la campagne. Quoi.
Et Films n'est pas très loin quand même, donc il y a quand même une ville avec pas mal de choses à côté, hein, pas très loin.
Oui, oui, on est à moins de 5 km de Films. 5
km
de Films. Voilà, et on a vraiment tout sur Films. Enfin, voilà, on n'a pas forcément d'obligation d'aller sur Reims. Franchement, Films, avec tous les commerces qu'on a, ça peut
vous
largement
suffire. Vous êtes bien loti, comme on dit. Écoutez,
oui, oui.
Lucie Paulet, on aura l'occasion de vous retrouver sur RCF, bien entendu. Vous êtes maire de Balieu-les-Films. Et on a envie de vous poser la question, on la pose à chaque maire tous les jours, à midi et aux 18h20. Est-ce que vous êtes une mère heureuse?
Oui, moi je suis.
Une mère M-A-I-R-E, hein, bien sûr.
Oui. Moi je suis heureuse de rendre service à la population. Voilà, parce que j'ai grandi dans cette commune-là. J'aime ma commune et voilà, aider les gens, moi c'est dans mon ADN.
Vous êtes une baillotine.
Eh oui.
Ah ben voilà. Et donc pour s'occuper des baillotins, quoi de mieux que Lucie Pollet, maire de Balieu-des-Filles. Merci Lucie Pollet d'avoir
Merci
été avec nous.
Vous.
À bientôt.
Merci
au revoir.
Également. Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous Jean-Pierre Benoît. On ne vous dit pas à bientôt, mais à tout à l'heure. On vous retrouvera notamment en deuxième partie d'émission avec Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole. Mais à 18h30, on lance le journal régional sur RCF. Les titres de ce mardi 3 octobre, les nouveaux locaux de l'Agence régionale de santé ont été inaugurés vendredi à Châlons-en-Champagne. Un projet porté par la société d'économie mixte SEMCHA pour un coût total de 6,4 millions d'euros. Nouvelle hors-saison musicale proposée par l'association Bougeons à Avançon ce week-end. La musique baroque sera à l'honneur.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
À Châlons-en-Champagne, les 140 salariés de l'Agence régionale de santé étaient réunis au sein du complexe Mont-Bernard, un site vieillissant et éloigné du centre-ville. Aujourd'hui, c'est sur le parvis de la gare que se trouve l'équipe de l'Agence régionale de santé, dans un bâtiment appartenant à la société d'économie mixte SEMCHA et conçu par l'architecte rémois Giovanni Pass. Pour son président Jérôme Matt, la SEMCHA évolue et poursuit son soutien dans le développement économique du territoire.
Nous sommes le bras armé, nous sommes une filiale de la ville et de l'agglo, nous avons d'autres actionnaires privés, nous intervenons au service de l'intérêt général. Et donc quand la collectivité ne sait pas, parce qu'elle n'a pas forcément peut-être les compétences, parce qu'elle n'a pas donc les ressources, et ce n'est pas forcément le métier d'une collectivité que de construire des bâtiments donc pour les louer, et bien, la SEMCHA donc, est là, elle construit, donc elle rénove, elle accompagne, elle est là en soutien au développement économique du territoire. La SEMCHA, elle est là, elle est toujours présente, peut-être que par le passé on a souffert d'un manque de communication, on n'a pas suffisamment donc communiqué sur les projets, mais donc aujourd'hui en tout cas toutes les opérations qu'on a lancées sur lesquelles on a réfléchi donc sortent, et donc comme on dit, hein, on voit voilà, la phase de travaux de réalisation donc, qui sort, qui est visible donc des yeux du grand public. Et donc effectivement, on va continuer, puisque nous avons encore 3000 m² à livrer donc sur l'ex-caserne militaire donc à Chanzy. Et nous avons également donc une nouvelle société donc d'investissement qui a été actée donc en partenariat, en association, en collaboration, en lien associé très fort donc avec la CCI Marne-en-Champagne et la Banque des Territoires.
Les nouveaux locaux de l'Agence régionale de santé mesurent 2300 m² de surface répartis sur deux étages et un rez-de-chaussée et 1100 m² net d'espace de travail, soit 10 à 12 m² par agent pour un coût total de 6,4 millions d'euros. Ils complètent la rénovation du quartier, à savoir la fresque et la place de la gare. À venir en 2024, la façade de la gare. La start-up éphémère comme Fédérer, Mobiliser et Réussir propose un forum de l'emploi ouvert à tous les demandeurs demain, mercredi, de 9h30 à 16h30 dans la galerie de l'Hôtel de Ville à Châlons-en-Champagne. Le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, était au collège Terre Rouge d'Épernay cet après-midi dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. L'événement qui a débuté le 18 septembre se poursuit jusqu'à samedi, le 7 octobre. Dans ce cadre, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans les écoles et établissements. Il s'agit d'inciter les élèves à devenir acteurs du développement durable et à contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de l'agenda 2030. À Épernay, le recteur a pu découvrir le projet Notre École, faisons-la ensemble. Les 7 et 8 octobre, les amateurs de musique vont se régaler à Avançon. C'est près de Rethel, dans les Ardennes. Les associations Bougeons à Avançon et Hors Saison Musicale remettent le couvert pour une rencontre extraordinaire articulée autour de la musique baroque. Renée Maillot, présidente de l'association Bougeons à Avançon.
Là, c'est tout à fait exceptionnel puisque nous allons recevoir 3 musiciens qui font partie de ce groupe qui s'appelle Les Épopées, dont le chef qui est Stéphane Fuget, qui va tenir le clavecin. Nous aurons donc un concert de musique baroque, Stéphane Fuget, Alice Coquart et Claire Le Filiatre. Voilà.
Vous l'avez entendu, du clavecin, mais pas seulement. Viol de gambe et soprano sont au programme également, avec notamment Alice Cocard, passée par le Conservatoire Régional de Reims. Si, comme le veut la tradition, un concert sera donné le dimanche à 15h30 en l'église d'Avançon, pour tout public, avec une entrée au chapeau, le rituel de ces événements est bien d'amener la musique à tous les publics.
Évidemment, le concert du dimanche est très très important, nous accueillons le public, mais ce qui est important, c'est d'amener la musique là où elle n'arrive pas habituellement. Donc nous allons, un petit peu comme d'habitude, mais là c'est toujours des moments exceptionnels, nous allons intervenir à l'espace Jacques Sourdi d'Assy-Romance, auprès des personnes handicapées. Ensuite, nous aurons un concert pour les enfants d'Avançon, qui sera suivi d'un goûter, toujours pour faire découvrir les musiciens, découvrir des musiques que ces enfants ne connaissent pas du tout dans le contexte actuel. Et puis nous aurons ensuite une intervention chez une personne seule d'Avançon à domicile. Et ça, ce sont toujours aussi des instants tout à fait exceptionnels, parce que la personne invite quelques membres de sa famille, ses voisins, les personnes qu'elle souhaite. C'est très convivial et il y a toujours un très très bel échange entre les personnes qui reçoivent et les musiciens. Et je pense que là, ce sera aussi tout à fait étonnant.
René Maillot, la présidente de l'association Bougeons à Avançon, au micro de RCF Reims-Ardennes. Pour vous, les auditrices et auditeurs de RCF, le rendez-vous est donc fixé dimanche 8 octobre à 15h30 en l'église d'Avançon. Entrée au chapeau pour assister à ce concert exceptionnel. Clavecin, viol de gambe, soprano, on l'a dit, un programme chouette articulé autour du baroque. Le baroque, on en parlera dans quelques instants avec le Festival Baroque 2023 du côté de Cézanne. Mais avant cela, on finit le journal par des mots de sport. D'abord du basket, la Leaders Cup Pro B, c'est déjà l'heure des matchs retour pour le Champagne Basket en déplacement ce soir à 20h sur le parquet d'Evreux. Exceptionnelle nouvelle en cyclisme, c'est une nouvelle qui a fuité, elle n'est pas encore rendue officielle, mais si on vous l'annonce sur RCF, c'est qu'on est quand même assez sûr de ce qu'on vous dit. À l'occasion du Tour de France masculin 2024, les cyclistes passeront par 3, mieux même, ils y feront escale. La cité Tricasse sera à la fois ville départ et ville d'arrivée du peloton de la 9e étape de cette 111e édition du Tour de France le dimanche 7 juillet, une information qui sera rendue officielle le 25 octobre prochain lorsque l'ensemble du tracé sera dévoilé à Paris. Un petit peu de patience, mais c'est d'ores et déjà une bonne nouvelle. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h37 sur les ondes de RCF en région, toujours avec notre stagiaire à la rédaction en communication, Mélissa, à nos côtés. Ça va toujours, Mélissa ?
Toujours très bien.
Vous aimez bien la musique, vous ?
Ça va.
Musique baroque, ça vous parle ou vous êtes plutôt sur d'autres styles ?
Plus d'autres styles.
Eh bien, on va quand même parler musique baroque. Voilà, c'est depuis 1998 que le Festival Baroque de Cézanne poursuit son objectif d'animer la remarquable architecture de sa ville par la musique baroque et ancienne, lieu de rendez-vous des plus grandes formations de la musique baroque. Il est aussi un vecteur d'expression de jeunes professionnels passionnés. Pour nous en parler, Emmanuel Rousseau, président du Festival Baroque de Cézanne, c'est avec Christian Lanciot.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Christian. Bonjour à tous les auditeurs.
Festival Baroque qui va fêter donc ce week-end prochain son 24e anniversaire. On peut dire que votre association, le Festival Baroque, contribue largement à l'animation culturelle de cette belle petite ville de cité de caractère qu'est Cézanne.
Oui, c'était vraiment l'objectif dès le départ. C'est de proposer une animation de qualité, vraiment de grande qualité, aux Cézannais et à la région.
Le thème cette année, je dis qu'il est un peu en contraste avec celui de l'an dernier. L'an dernier, c'était la grandeur de Rome, et cette année, c'est le sens de la fête. Alors pourquoi ?
C'est tout simple, en fait, dans une période qui quand même est assez compliquée, on s'est dit que c'était bien de s'offrir une parenthèse et de présenter une édition très festive. Donc c'est le thème 2023, c'est le sens de la fête, donc avec de la musique de fête.
Vous allez nous dire un peu quand ça commence et quand ça se termine.
On commence le vendredi au cinéma Le César. Alors on pourra voir ou revoir le film Vatel avec Depardieu, qui était une grande fresque très très colorée, très spectaculaire, sur les fêtes à Chantilly, un très bon film. Et puis donc là on passe au lendemain, le samedi 7, au prétoire, dans le décor du Festival Baroque, donc le cadre de scène baroque. Nicole Garnier viendra parler de Chantilly et des fêtes princières des Condés. Vous savez, c'est le début de la gastronomie française, c'est le début, c'est la crème Chantilly. C'est donc le prince de Condé qui veut éblouir Louis XIV dans une énorme fête. Et donc elle va nous raconter tout ça. Et puis nous avons à 16h, toujours le samedi 7, un concert assez original qui est donné par la Guilde des Mercenaires, qui s'appelle La Riposta. Alors c'est de la musique du 16e et du 17e siècle italien, donc une musique assez festive aussi, avec la grande soprano Violaine Le Chenadec, et puis Jean-Luc Haut, qui est bien connu des amateurs d'orgue et qui est déjà venu dans la région, notamment à l'invitation des Amis des Orgues de Vertu, qui se produit lui aussi dans les grands festivals. Et puis, comme il faut mettre en avant le terroir champenois, eh bien, on a une collation champagne qui est au prétoire, toujours dans le cadre de scène, le samedi soir, de 18 à 19h, sur réservation. J'insiste là-dessus parce que c'est une question de logistique, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc vous pouvez dîner au prétoire avant le grand concert de 18 à 19h, donc sur réservation. Et puis alors j'en arrive à 19h30 le samedi, je vais insister là-dessus, au très grand concert donné par le Concert Spirituel, dirigé par Hervé Niquet. Le concert que nous donnons vient d'être donné devant le roi Charles à Londres, qui s'est déplacé. Je sais que ça a été la révolution pour le Concert Spirituel de jouer devant le roi. Nous allons avoir un concert de Handel, Water Music et Music for the Royal Fireworks, donc une musique pour les feux d'artifice et pour les jeux d'eau. Donc ça, c'était des musiques composées pour des spectacles sur la Tamise, très festifs, des cuivres, des timbales, vraiment un concert absolument magnifique.
Et ça, c'est à 19h30 à l'église Saint-Denis.
Oui, on a choisi cette horaire-là parce que ça permet en fait aux gens de rentrer chez eux à un horaire décent. Et puis alors le lendemain, je vous parlais tout à l'heure de l'Académie Philippe Jarouski, eh bien nous donnons un concert à Réveillon le 8 octobre, le dimanche après-midi à 15h30. Ce sont les jeunes talents de l'Académie Philippe Jarouski qui viennent donner un concert là aussi de musique italienne, de la musique de cour, qui s'intitule Sospiri Ardenti, donc avec les grands compositeurs en fait italiens, mais pas seulement. Il y aura Strozzi, Monteverdi, mais aussi Caccini et Dolande, l'anglais.
Bien, Emmanuel, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bien sûr beaucoup de monde et surtout, on dit à nos auditrices et auditeurs, venez, 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 vous ne le regretterez pas.
Alors, la réservation se fait en ligne sur le site du festival, c'est tout simple à trouver, c'est festivalcézanne.fr.
Merci Emmanuel Rousseau, Christian Lanciot, vous étiez ensemble depuis Cézanne dans le sud-ouest marnais. Le prochain festival se tiendra ce week-end, rendez-vous dès le 6 octobre, c'est les 6, 7, 8 octobre 2023, un rendez-vous festif et incontournable autour de la thématique Le sens de la fête, ce festival baroque du côté de Cézanne. Mélissa, vous nous disiez avant la chronique que vous n'étiez pas trop style baroque, mais là quand vous entendez ces deux passionnés, Emmanuel Rousseau et Christian Lanciot en parler, ça vous donne envie d'aller à Cézanne ce week-end?
Eh bien, pourquoi pas? On peut y aller, hein?
Voilà, on l'a convaincu, Mélissa. J'espère que vous aussi, les auditeurs de RCF, vous avez très envie de vous y rendre. 18h43.
Le 18-19 sur RCF.
Et on continue les rencontres dans ce magazine régional, cette fois avec Patrick Faustier. Il est vice-président d'Ardennes Métropole, en charge des questions économiques. Il est l'invité de Jean-Pierre Benoît.
Patrick Faustier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir un Ardennais avec nous aujourd'hui, responsable des questions économiques à Ardennes Métropole. Alors justement, est-ce que la température se met un peu au beau dans le département des Ardennes? Il y a des points positifs qui émergent en ce moment?
Oui, bien sûr. On a beaucoup de projets qui émergent en ce moment, qui sont en train de s'installer sur le territoire. On peut parler de projets, on a des projets dans le domaine économique, on a, enfin, général, dans les projets commerciaux, mais également dans l'accueil d'entreprises de toutes sortes, et il y a beaucoup de projets qui émergent en ce moment.
Alors en ce moment, on entend beaucoup parler d'Intelsia. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quoi il s'agit exactement?
Oui, Intelsia, c'est une entreprise multinationale aujourd'hui, qui est partie il y a environ une dizaine d'années, qui s'est beaucoup développée dans tous les pays du monde et singulièrement dans les Ardennes, puisqu'elle est venue d'abord comme sous-traitante de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, qui est implantée chez nous depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est une entreprise qui a des systèmes de relations avec la clientèle, hein, de la réponse téléphonique. Intelsia donc, a un très gros savoir-faire dans ce domaine de la gestion de la relation client. Ils ont donc fortement développé leurs équipes, d'abord avec la NTS, comme je le disais, et aujourd'hui, ils se débordent de cela, puisqu'ils prennent des locaux et ils s'implantent pour leurs propres clients hors ANTS. Et donc, ils ont, encore une fois, comme c'est une entreprise qui se développe, il y a de nombreux postes qui ont été créés. On a actuellement sur Charleville-Mézières 300 à 400 postes environ. Et il y a une espèce de saturation du marché, ce qui fait qu'on est en train de les implanter maintenant dans Sedan avec une position qui sera ouverte, je pense, au mois de décembre et 150 postes sur la ville de Sedan, ce qui est évidemment très important.
C'est important parce que 150 postes avec les familles, on peut dire que là, c'est un ballon d'oxygène hein, pour Charleville, pour la métropole, pour Sedan.
Oui, absolument. Il faut rappeler qu'en 2014, il y avait 100 à 120 postes dans ces métiers sur l'ensemble de l'agglomération et qu'on a bon espoir qu'à la fin de ce mandat, donc 12 ans plus tard, on approchera les 900 postes. C'est considérable.
Alors, ce qui est intéressant, Patrick Faustier, c'est que souvent, il faisait la une de l'actualité, un certain nombre d'endroits qui partaient, j'allais dire, en vrille, parce que les secteurs industriels disparaissaient. C'était il y a quelques années, cela. Et on a souvenir de cette très belle entreprise qui était Deville, qui avait dû cesser ses activités. Il y avait une friche industrielle. Alors là, vous allez peut-être nous rafraîchir un peu la mémoire, Patrick Faustier.
Oui, absolument. Deville, c'est une très ancienne entreprise, hein, née comme beaucoup d'entreprises dans les Ardennes au milieu du 19e siècle et qui a connu des heures de gloire. C'était une entreprise de chauffage, de gros électroménagers, dont beaucoup de Français ont été clients et sans doute un certain nombre de ceux qui nous entendent.
On se souvient du slogan, oui, la vraie flamme bleue Deville. Moi, je me rappelle de ça. Hein.
Absolument, la vraie flamme bleue Deville, tout à fait. Et puis, ben, malheureusement, les choses évoluent, voilà, et Deville a été rachetée, elle a quitté ses locaux historiques, et nous avions une friche, comme vous le rappeliez, en plein cœur de la ville. C'était pour nous extrêmement important de trouver un avenir à cette friche, et l'avenir, il est trouvé, puisqu'on a déjà depuis quelques semaines l'annonce de l'implantation d'Hermès, en plein cœur de ville, avec une réutilisation des anciens bureaux de Deville pour faire des bureaux administratifs et des locaux de production à côté. Donc à terme, à cet endroit, nous aurons 300 emplois à caractère industriel en plein cœur de Charleville-Mézières. Ça coche beaucoup de cases sur la réutilisation des friches, sur la limitation des déplacements pour aller travailler, enfin beaucoup de cases. Qui sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui sur la récupération de ces terrains qui ne peuvent pas être décemment abandonnés pendant des années.
Deux petites questions, Patrick Faustier. Moi, j'avais entendu, et nos auditeurs aussi, on avait entendu déjà parler d'Hermès. C'était vraiment une nouveauté exceptionnelle dans le département des Ardennes. Ça veut dire que c'est un nouvel Hermès qui s'implanterait à Deville, chez Deville, la friche industrielle.
Absolument. Après la première implantation qui s'est faite à Bonny-sur-Meuse il y a environ une quinzaine d'années maintenant, vous avez ensuite une deuxième implantation que nous avons inaugurée cette année à Tournes, et bien la troisième donc devrait ouvrir dans le courant de l'année 2026 à Charleville-Mézières. Et effectivement, le groupe Hermès aura sans doute entre 900 et 1000 emplois sur l'ensemble du département des Ardennes.
Et si on se restreint à la friche, ex-friche de ville, ça sera quand même plusieurs centaines d'emplois pour Charleville-Mézières et les environs.
Oui, d'autant qu'il reste à côté du terrain qui va être utilisé par Hermès, du terrain sur lequel nous avons des projets également dans le tertiaire, et nous espérons aussi accueillir de nombreux emplois sur cette partie de la friche que nous allons conserver.
Ce qui veut dire aussi, Patrick Faustier, moi je vous apprendrai rien, c'est que Hermès, c'est quand même le luxe, c'est le travail en finesse, en excellence, et on fait appel au savoir-faire ardennais. Qui est un savoir-faire d'excellence?
Oui, bien sûr, c'est une des qualités dixit les gens d'Hermès que j'ai pu rencontrer. C'est une des qualités de ce personnel ardennais qui a conduit le groupe à passer d'une à deux puis à trois implantations. Ils le disent eux-mêmes, ils ont affaire à des gens qui sont des gens très méticuleux, des gens qui souhaitent bien faire. Et donc ce geste ouvrier qui a été appris à l'origine sur bien d'autres métiers que ces métiers de la maroquinerie, eh bien, voilà, il y a des savoir-faire, il y a des expériences acquises qui, en fait, sont transposables des métiers de la métallurgie vers les métiers de la maroquinerie. En tout cas, il y a un savoir-faire, un savoir-être et une volonté de bien faire qui, elles, sont parfaitement transposables.
Pour terminer, Patrick Faustier, on a entendu parler aussi de l'implantation de SPL Mercure. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, SPL, ça veut dire Société Publique Locale. Donc, la SPL Mercure a été créée par l'agglomération et quatre communes qui la composent, Charleville-Mézières, Sedan, Vrigne-aux-Bois et Nouzonville. Elle a pour objectif de reprendre des locaux commerciaux abandonnés, en mauvais état, dans nos cœurs de ville, de les rénover et de les remettre en location ou de les revendre de façon à ce qu'on puisse y réimplanter des activités commerciales. C'est un de nos combats que nous menons à l'agglomération, celui de la réanimation, de la rénovation de l'appareil commercial de cœur de ville, car nous sommes convaincus qu'on va voir un retour vers ces cœurs de ville de la part des consommateurs, et c'est déjà une tendance qui se laisse voir dans les premiers chiffres.
On peut dire, Patrick Faustier, qu'avec SPL Mercure, c'est aussi, on met le doigt dans un engrenage parce qu'il y aura peut-être des locaux commerciaux. Donc, on peut peut-être pas évaluer le nombre d'emplois que ça pourrait créer, mais en tout cas, c'est une forme de dynamisme. Hein. Il nous reste 30 secondes, mais c'est ça qu'il faut quand même préciser.
Oui, bien sûr. En fait, on ne se contente pas de regarder la situation et parfois de la déplorer. Nous agissons au quotidien sur Ardennes Métropole et sur
Charleville.
Et j'ai cité pour avancer.
Un grand merci, Patrick Faustier. Merci également, Jean-Pierre Benoît. Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble dans ce magazine régional sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on va parler timbres. L'association philatélique sparnassienne fête ses 125 ans en accueillant une exposition internationale de timbres et d'histoires postales les 14 et 15 octobre à Épernay. La 47e édition de l'exposition internationale Macrophilex comprend de nombreuses présentations sur les timbres et l'histoire postale. Ça se passera donc au Palais des Fêtes d'Épernay. À cette occasion, le capitaine Albert Delin, as de la Grande Guerre et natif d'Épernay, sera mis à l'honneur à l'occasion du centenaire de sa mort tragique. C'était donc en 1923. Les précisions de Bruno Melin, président de l'association philatélique sparnassienne, co-organisateur de l'exposition de timbres et d'histoires postales.
Bruno Melin, bonjour.
Bonjour Gérald Gaillet.
Vous êtes président de l'association philatélique sparnassienne à Épernay et vous organisez prochainement, les 14 et 15 octobre, l'exposition internationale de philatélie et d'histoire postale. Qu'est-ce que c'est comme rendez-vous ?
D'abord, je rectifie une chose, nous sommes co-organisateurs. C'est-à-dire que l'APS, l'association philatélique, assure sur place la logistique et de faire en sorte que tout se passe bien. L'autre co-organisateur étant l'Union Marcophile, puisque Marcophilex est le prétexte à leur assemblée générale qui aura lieu le dimanche. Et donc d'organiser, pour faire venir autant de visiteurs que possible, une superbe exposition philatélique et marcophile qui cette année aura comme principal thème l'aérien, la poste aérienne.
Alors dans cette poste aérienne, il y a des collectionneurs qui viennent d'Épernay ?
Oui, il y en aura qu'un, c'est moi, pour Épernay. Alors aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai intitulé ma présentation « La poste aérienne à Épernay ». Bon, sachant qu'à Épernay, on n'a pas d'aérodrome, d'aéroport ou de ligne régulière avec qui que ce soit. Mais il y a un petit aéroport à côté d'Épernay qui s'appelle Pivot, à partir duquel il y a eu des manifestations aériennes en 1912 et ensuite en 1947 jusqu'en 1952.
Avec des marques postales ?
Alors, avec des marques. Alors, pour celles de 1912, c'était des marques non philatéliques. Et à partir de 1947, c'est un timbre à date, effectivement, qui obliterait le courrier.
Que va-t-on trouver sur place en dehors des collections ?
Alors, en dehors des collections, bien sûr, donc tous les exposants qui seront là. Les négociants, il y aura 11 négociants qui vous proposeront leur lettre courrier pour compléter vos collections. On aura également quelques associations nationales comme par exemple l'Académie de Philatélie, évidemment, la CEMAL, l'Association des collectionneurs de machines à affranchir, la CEP, l'Association des collectionneurs d'entiers postaux, la SAMP, la Société des Amis du Musée de la Poste, ah oui, autant d'acronymes dont il est toujours difficile de se souvenir des noms, et puis il y en a encore une ou deux autres dont j'ai oublié justement les acronymes.
Et bien sûr, lors de cette visite d'exposition, qu'est-ce qu'on peut y voir en dehors de l'exposition du président ?
Ah bah oui, bah évidemment, heureusement, je suis pas le seul. Alors, on pourra voir d'autres thèmes hein, qui seront exposés, bien évidemment. Et puis, nous avions, parce que à cette occasion, on célèbre les 125 ans de notre association. Donc, il y a quand même pas beaucoup d'associations philatéliques qui peuvent se targuer d'être aussi vieilles. Et on voulait mettre l'accent également sur le centenaire d'un Sparnassien qui s'appelle le capitaine Delin, qui est un as de la Grande Guerre, avec 20 victoires au compteur, plus des victoires, mais qui n'ont pas été officialisées, on va dire. Donc, 20 victoires, il fait partie des plus grands as de la Grande Guerre. Il est né à Épernay, il est mort quelques années après la guerre, en 1923. Il avait créé une société de liaison avec la Roumanie et d'essais d'avions, et c'est en essayant un avion à Villacoublay qu'il a trouvé la mort. Et il est enterré au cimetière à Épernay.
Quoi le commémorer alors à l'occasion de cette exposition internationale ?
Bah, comme je l'ai dit, parce que c'est le centenaire de sa mort, 1923. Bon, c'est vrai que c'est un Sparnassien, mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Il a une petite rue à son nom qui se trouve juste derrière la poste principale à Épernay, la rue du Capitaine Delin. Donc voilà, nous, on a décidé d'honorer sa mémoire. Puisque personne n'en parle, eh bien nous, on va en parler. Et il figurera sur les souvenirs qu'on aura le plaisir de proposer à nos visiteurs.
Alors justement, une fois qu'on a visité l'exposition, qu'on a fait le tour des négociants, eh bien on passe par le stand de l'Union Marcophile ou de l'Association Philatélique Sparnassienne pour acheter un souvenir ?
Bon, on commence même par ça. Oui, bien sûr. On a fait faire un portrait du capitaine Delin par un street artiste qui est connu internationalement, qui s'appelle C215, de son vrai nom Christian Guémy. Pour certains, ça leur causera un peu plus si je leur dis qu'il a fait des portraits de Simone Veil qui ont été tagués à Paris, par exemple. On en a causé dans la presse et aux actualités. L'année dernière, il est allé 3 fois en Ukraine après les bombardements pour aller faire des pochoirs sur des tanks ou sur des ruines. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très engagé, qui aujourd'hui, malheureusement, enfin heureusement pour lui, s'occupe de ses 2 jeunes enfants. Et donc, il ne sera pas avec nous ce week-end-là parce qu'il réserve ses week-ends à ses enfants qui ont 5 et 3 ans. Donc voilà.
Il a déjà fait des timbres.
Ah oui, il a déjà fait des timbres. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour la Poste, à la demande de la Poste. Il a fait un timbre sur Léo Ferré. Il a fait un timbre dernièrement sur Nelson Mandela. Il a fait un carnet Croix-Rouge il y a 5-6 ans. Il a fait un timbre sur un médecin des TAF, j'ai oublié le nom du médecin, mais voilà. Il a participé également à des collecteurs quand il y a eu une exposition au musée de la Poste sur le street art. Il y avait un timbre qui venait donc de sa production. Donc voilà, oui. Et puis je pense qu'il nous réserve encore de belles surprises philatéliques.
Les horaires pour venir vous voir.
Donc ça se passe au Palais des Fêtes à Épernay, parc Roger Menus, en face de la piscine. Et donc l'exposition sera ouverte de 9h le matin à 18h le samedi et 17h le dimanche, donc sans fermeture le midi. Donc on vous attend très nombreux.
Et comme dans toutes les expositions philatéliques, l'entrée est gratuite.
Ah, tout à fait, absolument. Voilà, c'est pour ça qu'on vous propose de garder vos sous pour aller les dépenser aux souvenirs.
Bruno Belin, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association philatélique sparnassienne et que vous co-organisez les 14 et 15 octobre à Épernay l'exposition Marcophilex 47 à une exposition internationale de philatélie et d'histoire postale.
Oui, on parle d'international parce qu'on a un collectionneur américain qui vient des États-Unis, donc Suisse, Pays-Bas, Belgique, France, bien évidemment.
Merci Bruno.
Merci à RCF.
Vous avez reconnu sa voix, évidemment. Bruno Melin était au micro de Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Encore une fois, un petit rappel, l'exposition de timbres et d'histoire postale est visible gratuitement. C'est au Palais des Fêtes d'Épernay les samedis 14 octobre et dimanche 15 octobre entre 9h et 17h sans interruption pendant midi. Voilà de beaux rendez-vous que l'on peut d'ores et déjà vous donner sur les ondes de RCF. C'était Fabrice Gironet qui était à la mise en onde de ce magazine régional ce soir. Et il va l'être encore pour 1 minute 10 parce que nous, on a des remerciements à faire à Mélissa Tavares qui nous a accompagnés tout au long de cette soirée ici en plateau. Bonne soirée, Mélissa.
Ben merci à vous aussi.
On se retrouve demain, 18h10, avec de nouvelles actualités. Vous le savez, le mercredi, c'est toujours un format un petit peu plus spécial. Peut-être que l'on va retrouver une formule avec des journalistes qui viendront débattre de l'actualité, de la rentrée parlementaire, des événements politique, s'il est bien possible qu'au casting on retrouve Hervé Chabot, Fernand Tavares, pourquoi pas, qui seront avec Jean-Pierre Benoît en maître de cérémonie. Mais tout cela, c'est demain. Pour l'instant, il y a la formation nationale qui arrive sur RCF. À 19h12 sur RCF Reims-Ardennes, vous retrouverez Olivier et Valérie pour la méditation. Et puis les programmes d'information locale reviennent dès 7h demain matin sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Merci pour votre fidélité qui compte pour nous.